Sœur Chalandon, profession du père. D'où vient cette histoire?
Alors, je pense qu'il y a deux façons de se raconter. La façon la plus simple, mais que je trouve la plus obscène, si je puis me permettre, c'est l'autobiographie. Mon enfance, gna gna gna, et ça ne m'intéresse pas du tout. Puis l'autre façon de se raconter, c'est le roman, c'est la fiction. Et là, j'ai rencontré un petit garçon qui s'appelle Émile, qui me ressemble terriblement, Émile Choulan. Et j'ai confié à Émile le soin de raconter mon histoire. Donc, ce n'est pas moi qui raconte, c'est un roman, c'est écrit sur la couverture, c'est pratique, un roman. C'est un pas de côté, c'est un masque, même s'il est transparent, mais c'est un masque.
Une lâcheté, non?
Non, parce que la lâcheté, là, je pense pas que... J'ai pas envie de faire du mal, j'ai pas envie de faire souffrir, j'ai pas envie de remuer des choses lourdes, qui remueront n'importe comment. Mais j'ai pas envie de ça. J'ai envie de me confronter à mon histoire, mais que ça soit Émile qui la vive par procuration, donc je confie à Émile le soin de vous la raconter. Mais en même temps, d'où vient ce roman? Il vient de l'enfance, c'est-à-dire, voilà, j'ai eu cette enfance-là, et j'ai préféré le roman. Donc ce n'est pas de la lâcheté, c'est une précaution supplémentaire pour ne pas faire mal, pour ne pas faire de peine. Et moi, ça me protège aussi, parce que je trouve que le roman, c'est à la fois un glaive et à la fois un bouclier.
Mais donc, on l'a compris, il y a beaucoup de vous-même, de votre histoire. D'ailleurs, enfin, en principe, ça ne se dit pas, je n'aime pas évoquer les dédicaces des auteurs qui nous envoient leurs livres avant parution. Mais là, pour une fois, je vais lire la vôtre. Voilà qui est dit une fois le père en bière. Donc, ce livre-là ne pouvait pas être écrit avant la disparition du père, parce que justement, il est très près de la vérité.
Non, alors il ne pouvait pas être écrit parce que d'abord mon père ne l'aurait pas compris. Mon père était, et c'est le vrai thème du livre, c'est pas un livre de plus sur une enfance malheureuse, parce qu'il y en a eu trop depuis Folcoche, depuis Vipère au Poing. Je pense que tout ça a été écrit, tout a été dit à peu près, mais en tout cas c'est un livre sur un homme fantasque, le père d'Émile, mon
oui,
père.
C'est plus que ça même.
C'est un homme qui d'abord c'est un homme qui est mort en hôpital psychiatrique, mais qui aurait pu être psychiatrisé tout de suite, c'est-à-dire à l'âge de 20 ans. Sauf qu'il est passé à travers tout, il est passé à travers tous les filtres de la société, personne n'a rien vu. Quand il disait qu'il conseillait de Gaulle sur les grandes affaires de l'État, les voisins le croyaient. Lorsqu'il disait qu'il était chargé de protéger Kennedy, les voisins étaient sûrs que c'était vrai. Tout ça est évidemment faux. Mais j'ai vécu avec ça. C'est-à-dire que mon problème, c'est que chaque matin, quand mon père entrait dans ma chambre, je ne savais pas qui allait entrer dans la chambre. C'était qui? C'était un pasteur? C'était un parachutiste qui avait sauté sur Dien Bien Phu? C'est un agent secret, un membre de la CIA. J'ai compris que bien plus tard, qu'en fait, il était en prise directe avec l'actualité. Quand il y avait le problème des missiles de Cuba, de la crise de Cuba, en fait, là, il venait dire qu'il était chargé par la France de défendre notre ville, la ville de Lyon, qui n'est pas citée. Donc, nous sommes dans quelque chose qui est la réalité d'un enfant qui n'a pas de socle, qui n'a pas de vérité, puisque le mensonge est constant, mais qui croit son père. Parce que si l'enfant ne croit pas son père, il va croire qui, l'enfant? Donc, il vit là-dedans, mais je me suis dit qu'il fallait que j'attende sa disparition. Parce que je pense qu'il aurait lu ce livre en disant « Attends, mais je le paraphrase. Attends, mais tu dis que je te dis que j'ai conseillé De Gaulle. » Mais ce n'est pas à ce moment-là que je l'ai conseillé. C'est au moment de Dien Bien Phu. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il me dira « Bah, t'as raison, j'ai jamais connu De Gaulle. » On ne peut pas avoir une conversation d'homme à homme, face à face. Profession du père, profession du fils, les deux mêlés qui se regardent et qui se disent la vérité. Je pense qu'il aurait pris des tangents, des chemins de traverse. Je pense que jamais il m'aurait dit « Bon, mon petit bonhomme, je vais te dire, moi, j'ai jamais eu de métier. J'étais à la maison, c'est maman qui faisait bouillir la marmite. Et c'est comme ça. Et donc, je t'ai inventé un monde cruel, un monde difficile, parce qu'il y avait la violence en plus. Mais en tout cas, à aucun moment, il n'aurait assumé et avoué. Donc, à quoi servait que ce livre sorte de son vivant? Paradoxalement, c'est sa mort qui me l'a rendu vivant.
Alors, vous venez d'y faire allusion. On peut se dire que finalement, une enfance avec un père comme celui-là, ça aurait pu être une enfance formidable, où on était en permanence, l'invention d'histoires, de personnages, en faire quelque chose d'extrêmement ludique. Et puis, il y a surtout, conjointement à ce délire, la violence domestique permanente, tous les jours.
Voilà, ce qui est sans la violence, finalement. Émile et moi, nous aurions été élevés par un metteur en scène, par une sorte de formidable transformiste, un magicien. C'est-à-dire que quel plus beau cadeau qu'un père puisse faire à son fils que de s'habiller tous les deux en trench coat, on appelait ça trench coat à l'époque, ça faisait agent secret, de se retrouver à Lyon un dimanche avec un talkie-walkie, lui avec un talkie-walkie, moi avec l'autre talkie-walkie, Et il me demandait de prendre l'accent américain comme ça pour dire « Chef de la CIA, la ville est calme », pour voir comment les gens nous regardaient. Mais c'est magique, c'est-à-dire que les enfants jouent aux cow-boys et aux Indiens ensemble. Là, vous jouez aux cow-boys et aux Indiens avec votre propre père. Lui, lorsqu'on joue à ça, on ne joue pas à ça. Je suis en train d'être avec mon père dans un lieu et dans un moment de l'histoire où, par exemple, la CIA s'occupe de Lyon, où les services secrets font attention, pleine guerre d'Algérie, que la ville est calme. Donc, ça serait ça. Bon, je n'ai, évidemment, l'enfant n'a pas de socle, l'enfant n'a pas de vérité, l'enfant repart complètement nu, puisqu'il ne sait pas à quel sein se vouer, il ne sait pas où est le vrai du faux. S'il n'y avait que ça, d'accord, il est mon metteur en scène, il est mon producteur, je suis son seul public et je l'applaudis. Mais le problème, c'est qu'après, la main tendue, ça se transforme en poing. Et là, il frappe. Et là, il cogne, pour des raisons que j'ignore. Il a une violence en lui qui est telle qu'il détruit son fils. Il détruit sa femme. Il détruit cette petite secte. C'est une petite secte. Il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de copains, il n'y a pas de cousins. C'est un lieu complètement clos, isolé, avec la porte qui ferme. Et dans ce lieu clos, il est tour à tour magicien et tour à tour bourreau. Et l'enfant est tour à tour spectateur et tour à tour victime.
Et acteur.
Alors, il est acteur. Mais ce moment d'acteur est assez formidable parce que pour le projet de tuer De Gaulle, par exemple, un matin, l'enfant cesse d'être la victime du père pour être son petit soldat. Et là, le père l'entraîne. Faire des pompes, des élongations. Allez, vas-y, allez. Il appelle le petit rebelle. Et c'est magique parce que brusquement, il se rapproche. Tant pis, le prix que ça coûte. Parce que c'est dur pour un enfant de penser qu'il va tuer quelqu'un. C'est épouvantable, vivre avec cette histoire en tête, cette idée en tête. Mais en tout cas, il n'est plus la victime, il est le petit soldat. Et là, pour le coup, il est prêt à mourir pour son père.
Alors, c'est justement ce qui donne un ton très singulier à votre roman, à votre livre. C'est ce balancement permanent entre la comédie, la folie de ce père, et puis l'effroi qui est là à l'intérieur de ce livre et de cette vie familiale quotidienne.
Moi c'est ce que je voulais, c'est que sans cesse, on oscille de la tragédie à la comédie. Parce que la folie, le délire, ça peut être très drôle. Mon frère, bon, j'ai un frère qui n'est pas dans le livre, puisque c'est un roman
qui n'existe pas.
Qui n'existe pas. Il n'est pas là.
Unique.
Voilà, Émile et fils unique, sauf que le livre lui est dédicacé à Yves. Mon frère a lu ce livre, c'était l'un des premiers à le lire. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que j'ai ri? Et j'étais extrêmement heureux de ça. C'est-à-dire qu'il a ri de tous ces moments qui lui sont revenus en mémoire, évidemment, mais tous ces moments qui étaient effroyables lorsqu'on était enfant et qui, vus avec des yeux d'adulte, sont tellement insensés. Nous sommes dans l'absurde. C'est un voyage en absurdité du début jusqu'à la fin. Donc, c'est ça qui est terrible, et c'est ce que je voulais. Moi, ce que je voulais, c'est raconter ces moments de cassure de rythme entre le bonheur d'un enfant avec son père magicien et la terreur d'un enfant avec son père bourreau.
Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou sous l'influence de ce père ?
De plus fou, donc, mon père, sur un coin de table, dans la cuisine, parce qu'il avait une phrase que je trouvais très effrayante et que maintenant, avec le recul, je trouve grotesque. Imaginez-vous, mon père qui regarde la ville par la cuisine, qui a les mains sur les hanches, pendant que ma mère prépare la soupe, qu'elle épluche les légumes. Et avec une voix grave, il dit « Le destin de la France se joue dans cette cuisine ». Et mon père, dans cette cuisine, il y a une petite table de cuisine en formica de l'époque, écrivait des lettres. Et il écrivait de longues lettres, de lourdes lettres, qui me demandait d'aller poster ici et là, la nuit, à Lyon, chez des gens, en fait, je l'ai su après, chez des gens qui étaient opposés à l'Algérie française, des gens qui étaient gaullistes, et des gens qui avaient des responsabilités dans cette ville. Et donc j'allais apporter, moi, petit garçon, en culotte courte, j'allais apporter dans des boîtes aux lettres des menaces de mort à des gens qui pensaient que l'OS allait frapper. L'OS, c'était un gamin de 12 ans et un père dans une cuisine qui allait changer le monde.
Comment aujourd'hui expliquez-vous que, donc là, on peut le dire, cette folie, cette souffrance psychiatrique de votre père n'a été vue par personne?
Je ne sais pas. Écoutez, je ne sais pas ce que je sais, parce que c'est bouleversant. D'abord, on voyait tellement peu de monde qu'il y avait peu de gens qui étaient accessibles. Mais par exemple, nous avions un vieux médecin de famille. C'était son médecin. Un docteur que je mets en scène sous un autre nom. Mais ce médecin de famille, un jour, je lui dis, vous savez, il commence à être incontrôlable. Lui, le médecin de famille, c'était le pouls, l'attention, le cœur. Et mon père lui parlait. Et des moments, je lui disais, mais vous vous rendez compte de ce qu'il vous dit, de ce qu'il vous raconte? Et le médecin, tout d'un coup, me voit venir. Il disait, ah, je vois ce que vous voulez faire. Vous voulez mettre mon père à l'écart. Vous voulez l'interdire. Vous voulez qu'il aille en hôpital psychiatrique. Moi, je peux vous dire, un homme, compagnon de la libération, que De Gaulle à qui De Gaulle a demandé d'infiltrer la SS, jamais je le mettrai en hôpital psychiatrique. Et là, je me suis dit, docteur, mon Dieu. Et voilà. Et le docteur était l'un des spectateurs de plus. Mais il a eu tellement peu de gens. Il avait un certain charme. C'est les, des escrocs qui vous vendent la Tour Eiffel. Et donc, brusquement, je me suis aperçu que tous ces gens qui gravitaient, les peu de gens qui gravitaient autour de lui, y croyaient. Et donc, à aucun moment, je me souviens, à aucun moment, n'est passé dans l'esprit des gens qui étaient autour le « mais est-ce que cet homme est tout à fait sensé ?» À aucun moment.
Il y a quelque chose qui est frappant tout de même, c'est la faiblesse, enfin, je ne sais pas si c'est le mot juste, mais de la mère, avec cette phrase leitmotiv qui, sans arrêt... En même temps, on se dit quelque part, elle sait au fond d'elle-même, mais elle est dans le déni et elle répète sans cesse à son fils « tu sais comment est ton père ?»
Et donc, dans le « tu connais ton père », il y a « on ne pourra pas le changer », il y a « ça ira mieux demain », il y a « ne t'en fais pas », il n'y a pas « je te protège ». Il n'y a pas « si ça empire, je t'emmène et je te cacherai ». Moi, je pense qu'Émile, il a affaire en fait à une mère, qui a pas le courage, qui a peur pour elle, qui a peur pour lui, qui a peur pour tout, mais qui prie pour que demain aille mieux. Et ça, c'est une chose que Émile, comme moi, avons connue tout le temps. C'est-à-dire que « demain, ça ira mieux ». Et cette phrase « demain, ça ira mieux », c'est une des phrases que je ne peux pas entendre.
Alors, le petit rebelle... ce rebelle, à un moment donné, voilà, il a ce sursaut. C'est un réflexe de survie.
De survie absolue,
oui. Où a-t-il trouvé ce sursaut ?
Dans la peur. Moi, je crois qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais mourir. Et d'ailleurs, c'était un vrai problème, parce que comme nous étions deux, quand je suis parti, j'ai laissé mon frère seul. Et là, j'ai eu un sentiment profond de trahison et d'abandon. Mais il fallait que je m'en aille. C'est-à-dire que je commençais, je vieillissais. Donc je sentais que c'était un monde mortifère. Même un monde où on n'ouvrait pas les volets, on n'ouvrait pas les fenêtres, c'est-à-dire qu'un monde rance, un monde qui sentait déjà le caveau. Il fallait que je parte. Et c'est dehors que j'ai appris les couleurs, que j'ai appris la diversité. Il n'y avait pas de musique à la maison. Il y avait la télé. Il y avait pas de radio, pas que je me souvienne. Il y avait pas de livres. Il y avait rien. Et c'est dehors. D'un coup, je me suis aperçu que dehors, il y avait tout ce qui manquait à l'intérieur. Donc, il a fallu que je parte. C'était pas un acte de courage de partir. Il y avait le feu à la maison. Il y avait le feu, j'ai sauté, je me suis enfui.
Ce qui est aussi remarquable dans ce livre, c'est que, alors que bon, c'est un père qui vous a fait souffrir, qui aurait pu vous entraîner dans sa folie, il y a beaucoup de douleur, et en même temps, l'amour est toujours là. Ce livre n'est pas un règlement de compte. Jusqu'au bout, vous avez cherché à l'aimer, et vous l'avez peut-être même aimé.
Oui, c'est-à-dire que... C'est un livre, moi je tenais à ça, hein. C'est un roman sans larmes. C'est pas un roman larmoyant, il n'y a pas de pathos, il n'y a rien, c'est à l'os. Je suis à l'os des sentiments, c'est ce que je voulais faire. Et je voulais, jusqu'au bout, qu'à aucun moment, c'est pas un règlement de compte. Je ne suis pas en train de dire mon père, ce salaud, c'est pas ça, justement. C'est un gâchis formidable. Vous savez ce que c'était, moi, mon rêve ? Mon rêve, c'est d'avoir un père ouvrier. Un père, profession du père. Il est quoi ton père ? Ça n'existe plus aujourd'hui, mais il est mineur de fond. Il est dans les aciéries. Mon père, il a du cambouis sous les ongles. Mon père, il a les mains noires lorsqu'il rentre et il se les lave avec un savon de Marseille. Mon père, il a une petite mallette et il travaille dans les assurances. Mon père, il est professeur. Mon père, il est... Mais que mon père, lorsqu'il rentre à la maison le soir, qu'on puisse parler de ce qu'il fait et de ce qu'il est. Jamais. Je n'ai plus parlé de ça. Si, j'ai parlé à un pasteur protestant, j'ai parlé à un chef de la CIA, j'ai parlé à un des responsables de l'OS et j'ai parlé à un bourreau. Mais je crois que ce qui manque le plus, c'est ça. C'est de m'être trouvé en face de quelqu'un qui me dise « Alors, tu sais quoi ? Eh bien, je vais t'expliquer ce que c'est qu'une soudure et comment est-ce qu'on l'a fait. » Et ce père-là, il me manque.
Est-ce que vous diriez que ça a été le livre le plus difficile à écrire ? Parce que sans doute le plus intime, le plus proche.
Le plus difficile, probablement. C'est-à-dire que mes livres sur l'Irlande, Retour à Killybegs et Montrette, c'est difficile parce que c'est la trahison d'un proche. Donc c'est quelque chose de très très dur à vivre. Le quatrième mur était difficile parce qu'il fallait que je retourne sur les lieux de la guerre pour partager cela. Et là, c'est difficile parce que je ne peux plus me cacher derrière l'Irlande. Je ne peux plus me cacher derrière sa brèche, Attila. Je ne peux plus me cacher derrière rien. Dans ce livre-là, il y a Émile qui est tout seul, tout nu, dans une pièce, enfermé, et qui espère qu'on va l'aider à s'en sortir.
Alors, votre père n'est plus là, vous nous l'avez dit. Votre mère vit toujours.
Oui.
Elle a lu ce livre ?
Alors, c'est la première à qui j'ai envoyé le manuscrit en me disant, voilà, si elle m'avait dit, écoute, c'est trop douloureux, je ne veux pas, il ne serait jamais sorti. Mais elle l'a lu et elle a eu la réaction de ma mère, la réaction de la mère d'Émile, la réaction que j'attendais d'elle, mais pas à ce point-là. Elle l'a lu, elle m'a dit « Ah là là, c'est écrit petit ». Et ensuite, elle m'a dit « Bon, écoute, je propose une chose, mon fils, ce livre, on n'en parle plus jamais ». Et j'ai dit « D'accord, maman ». Et on en est resté là.
Si vous aviez une dédicace à faire à votre père, qu'est-ce que vous lui écririez, qu'est-ce que vous lui diriez à propos de ce livre?
C'est le plus triste de mes rendez-vous manqués.
Et alors, je me dis au final que, d'une certaine manière, vous avez une dette formidable à l'égard de ce père, c'est que c'est peut-être sa mythomanie, sa folie, qui a fait de vous le romancier que vous êtes aujourd'hui.
Le conteur. Sincèrement, être élevé par un menuisier qui vous apprend le bois, et vous travaillez le bois, et vous polissez, et vous rabotez, et vous aimez ce que vous faites, et vous n'écrivez pas, ça ne me dérange pas. À choisir, j'aurais préféré un père qui travaille le bois, qui donne un fils qui fasse autre chose, plutôt qu'un père qui me donne tous ces fantômes qui me hantent et qui sortent sous forme de livres ou sous forme de cauchemars. Parce que, évidemment, la plus grande peur que j'ai, elle s'éloigne maintenant, mais c'est la reproduction. J'ai toujours peur de ça. On est toujours hanté par ça. Et la reproduction, notamment sur la violence, notamment, c'est quelque chose qui me bouleverse. En fait, je lutte contre moi et je lutte contre mon père depuis. C'est-à-dire que, vivant ou mort, je continue de lutter contre lui. Donc, je pense qu'un père différent m'aurait aussi fait un peu de vacances.
Et pour terminer, qu'est-ce qui fait la différence entre une mythomanie, qui était celle de votre père, et un roman?
Et ben c'est, j'espère que je finirai pas en hôpital psychiatrique, d'abord. Et puis, je suis ici pour vous dire que je ne suis pas Émile. Mon père vous aurait dit « je suis Émile ». Je ne suis pas Émile. Et aussi, peut-être, quand même, je pense pas que je fasse du mal avec ce que j'écris. La mythomanie de mon père me faisait du mal. La mythomanie du père d'Émile fait du mal et empêche la construction de l'enfant. Il empêche l'enfant de vivre, d'être construit. Il empêche d'avoir des repères. Je pense que quand je fais un roman, c'est pour partager ce désarroi. C'est pas pour rajouter au désarroi.
La littérature fait toujours du bien.
Oui, même quand elle fait mal.